La débâcle, première partie, chapitre 4. Le 23 août, un mardi à 6 heures du matin, le camp fut levé. Les 100 000 hommes de l'armée de Châlons s'ébranlèrent, coulèrent bientôt en un ruissellement immense, comme un fleuve d'hommes, un instant épandu en lac, qui reprend son cours. Et malgré les rumeurs qui avaient couru la veille, ce fut une grande surprise pour beaucoup, de voir qu'au lieu de continuer le mouvement de retraite, on tournait le dos à Paris, allant là-bas, vers l'est, à l'inconnu. À 5 heures du matin, le 7e corps n'avait pas encore de cartouches. Depuis 2 jours, les artilleurs s'épuisaient pour débarquer les chevaux et le matériel dans la gare encombrée des approvisionnements qui refluaient de Metz. Et ce fut au dernier moment que des wagons chargés de cartouches furent découverts parmi l'inextricable pêle-mêle des trains et qu'une compagnie de corvées, dont Jean faisait partie, put en rapporter 240 000 sur des voitures réquisitionnées à la hâte. Jean distribua les 100 cartouches réglementaires à chacun des hommes de son escouade, au moment même où Gaude, le clairon de la compagnie, sonnait le départ. Le 106e ne devait pas traverser Reims. L'ordre de marche était de tourner la ville pour rejoindre la grande route de Châlons. Mais cette fois encore, on avait négligé d'échelonner les heures, de sorte que les 4 corps d'armée étant partis ensemble, il se produit une extrême confusion à l'entrée des premiers tronçons de route commune. L'artillerie, la cavalerie, à chaque instant coupaient et arrêtaient les lignes de fantassins. Des brigades entières durent attendre pendant 1 heure l'arme au pied. Et le pis, ce fut qu'un épouvantable orage éclata, 10 minutes à peine après le départ. Une pluie diluvienne qui trempa les hommes jusqu'aux os, alourdissant sur leurs épaules le sac de la capote. Le 106e, pourtant, avait pu se remettre en marche, comme la pluie cessait. Tandis que, dans un champ voisin, des zouaves, forcés d'attendre encore, avaient trouvé, pour prendre patience, le petit jeu de se battre à coups de boules de terre, des paquets de boue dont l'éclaboussement sur les uniformes soulevait des tempêtes de rire. Presque aussitôt, le soleil reparut, un soleil triomphal dans la chaude matinée d'août, et la gaieté revint. Les hommes fumaient comme une lessive étendue au grand air. Très vite, ils furent secs, pareils à des chiens crottés, retirés d'une mare, plaisantant des sonnettes de fange durcies qu'ils emportaient à leurs pantalons rouges. À chaque carrefour, il fallait s'arrêter encore. Tout au bout d'un faubourg de Reims, il y eut une dernière halte, devant un débit de boisson qui ne désemplissait pas. Alors, Maurice eut l'idée de régaler l'escouade, comme souhait de bonne chance à tous. « Caporal, si vous le permettez... » Jean, après une courte hésitation, accepta un petit verre. Et il y avait là Loubet et Chouteau, ce dernier sournoisement respectueux depuis que le caporal faisait sentir sa poigne. Et il y avait également Pache et la Poule, deux braves garçons, lorsqu'on ne leur montait pas la tête. « À votre santé, caporal !» dit Chouteau d'une voix de bon apôtre. « À la vôtre, et que chacun tâche de rapporter sa tête et ses pieds !» répondit Jean avec politesse, au milieu d'un rire approbateur. Mais on partait. Le capitaine Baudouin s'était approché d'un air choqué, pendant que le lieutenant Rochat affectait de tourner la tête, indulgent à la soif de ses hommes. Déjà, l'on filait sur la route de Châlons. Un interminable ruban, bordé d'arbres, allant d'un trait, tout droit, parmi l'immense plaine, des chaumes à l'infini, que bossuaient çà et là de hautes meules et des moulins de bois agitant leurs ailes. Plus au nord, des fils de poteaux télégraphiques indiquaient d'autres routes, où l'on reconnaissait les lignes sombres d'autres régiments en marche. Beaucoup même coupaient à travers champs, en masses profondes. Une brigade de cavalerie, en avant sur la gauche, trottait dans un éblouissement de soleil. Et tout l'horizon désert, d'un vide triste et sans bornes, s'animait, se peuplait ainsi de ces ruisseaux d'hommes débordant de partout, de ces coulées intarissables de fourmilières géantes. Vers 9 heures, le 106e quitta la route de Châlons pour prendre à gauche celle de Suippes, un autre ruban tout droit à l'infini. On marchait par 2 files espacées, laissant le milieu de la route libre. Les officiers s'y avançaient à l'aise, seuls. Et Maurice avait remarqué leur air soucieux, qui contrastait avec la belle humeur, la satisfaction gaillarde des soldats, heureux comme des enfants de marcher enfin. Même l'escouade se trouvant presque en tête, il apercevait de loin le colonel, M. de Vineuil, dont l'allure sombre, la grande taille raidie, balancée au pas du cheval, le frappait. On avait relégué la musique à l'arrière, avec les cantines du régiment. Puis, accompagnant la division, venaient les ambulances et le train des équipages, que suivait le convoi du corps tout entier, un immense convoi, des fourragères, des fourgons fermés pour les provisions, des chariots pour les bagages, un défilé de voitures de toutes sortes, qui tenait plus de 5 kilomètres, et dont, au rare coude de la route, on apercevait l'interminable queue. Enfin, à l'extrême bout, des troupeaux fermaient la colonne, une débandade de grands bœufs piétinant dans un flot de poussière, la viande encore sur pied, poussée à coups de fouet d'une peuplade guerrière en migration. Cependant, la poule, de temps à autre, remontait son sac d'un haussement d'épaule. Sous le prétexte qu'il était le plus fort, on le chargeait des ustensiles communs à toute l'escouade, la grande marmite et le bidon pour la provision d'eau. Cette fois même, on lui avait confié la pelle de la compagnie, en lui persuadant que c'était un honneur. Et il ne se plaignait pas. Il riait d'une chanson dont Loubet, le ténor de l'escouade, charmait la longueur de la route. Loubet, lui, avait un sac célèbre dans lequel on trouvait de tout, du linge, des souliers de rechange, de la mercerie, des brosses, du chocolat, un couvert et une timbale, sans compter les vivres réglementaires, des biscuits, du café. Et bien que les cartouches y fussent aussi, qu'il y eût encore sur le sac la couverture roulée, la tente abri et ses piquets, tout cela paraissait léger, tellement il savait, selon son mot, bien faire sa malle. « Foutu pays, tout de même !» répétait de loin en loin Chouteau, en jetant un regard de mépris sur ces plaines mornes de la Champagne pouilleuse. Les vastes étendues de terre crayeuse continuaient, se succédaient sans fin. Pas une ferme, pas une âme, rien que des vols de corbeaux tachant de noir l'immensité grise. À gauche, très loin, des bois de pins, d'une verdure sombre, couronnaient les lentes ondulations qui bornaient le ciel. Tandis que sur la droite, on devinait le cours de la Velle à une ligne d'arbres continue. Et là, derrière les coteaux, on voyait, depuis une lieue, monter une fumée énorme, dont les flots amassés finissaient par barrer l'horizon d'une effrayante nuée d'incendie. « Qu'est-ce qui brûle donc là-bas ? » demandaient des voix de tous côtés. Mais l'explication courut d'un bout à l'autre de la colonne. C'était le camp de Châlons qui flambait depuis 2 jours, incendié par ordre de l'empereur pour sauver des mains des Prussiens les richesses entassées. La cavalerie d'arrière-garde avait, disait-on, été chargée de mettre le feu à un grand baraquement, appelé le magasin jaune, plein de tentes, de piquets, de nattes, et au magasin neuf, un immense hangar fermé, où s'empilaient des gamelles, des souliers, des couvertures, de quoi équiper 100 autres 1000 hommes. Des meules de fourrage, allumées elles aussi, fumaient comme des torches gigantesques. Et à ce spectacle, devant ces tourbillons livides qui débordaient des collines lointaines, emplissant le ciel d'un irréparable deuil, l'armée, en marche par la grande plaine triste, était tombée dans un lourd silence. Sous le soleil, on n'entendait plus que la cadence des pas, tandis que les têtes, malgré elles, se tournaient toujours vers les fumées grossissantes, dont la nuée de désastre sembla suivre la colonne pendant toute une lieue encore. La gaieté revint à la grande halte, dans un chaume où les soldats purent s'asseoir sur leurs sacs pour manger un morceau. Les gros biscuits, carrés, servaient à tremper la soupe, mais les petits, ronds, croquants et légers, étaient une vraie friandise qui avait le seul défaut de donner une soif terrible. Invité, Pache à son tour chanta un cantique que toute l'escouade reprit en chœur. Jean, bon enfant, souriait, laissait faire, tandis que Maurice reprenait confiance à voir l'entrain de tous, le bel ordre et la belle humeur de cette première journée de marche. Et le reste de l'étape fut franchi du même pas gaillard. Pourtant, les 8 derniers kilomètres semblèrent durs. On venait de laisser à droite le village de Prône. On avait quitté la grande route pour couper à travers des terrains incultes, des landes sablonneuses plantées de petits bois de pins. Et la division entière, suivie de l'interminable convoi, tournait au milieu de ces bois, dans ce sable, où l'on enfonçait jusqu'à la cheville. Le désert s'était encore élargi. On ne rencontra qu'un maigre troupeau de moutons gardé par un grand chien noir. Enfin, vers 4 heures, le 106e s'arrêta à Dontrien, un village bâti au bord de la Suippe. La petite rivière court parmi des bouquets d'arbres, la vieille église est au milieu du cimetière, qu'un marronnier immense couvre tout entier de son ombre. Et ce fut sur la rive gauche, dans un pré en pente, que le régiment dressa ses tentes. Les officiers disaient que les 4 corps d'armée, ce soir-là, allaient bivouaquer sur la ligne de la Suippe, d'Auberive à Eutrégiville, en passant par Dontrien, Bétigniville et Pont-Favergé, un front de bandière qui avait près de 5 lieues. Tout de suite, Gaude sonna à la distribution, et Jean dut courir, car le caporal était le grand pourvoyeur, toujours en alerte. Il avait emmené la poule, ils revinrent au bout d'une demi-heure, chargés d'une côte de bœuf saignante et d'un fagot de bois. On avait déjà, sous un chêne, abattu et dépecé 3 bêtes du troupeau qui suivaient. La poule dut retourner chercher le pain qu'on cuisait à Dontrien même depuis midi dans les fours du village. Et ce premier jour, tout fut vraiment en abondance, sauf le vin et le tabac, dont jamais d'ailleurs aucune distribution ne devait être faite. Comme Jean était de retour, il trouva Chouteau en train de dresser la tente, aidé de Pache. Il les regarda un instant en ancien soldat d'expérience, qui n'aurait pas donné 4 sous de leur besogne. « Ça va bien qu'il fera beau cette nuit, » dit-il enfin. « Autrement, s'il ventait, nous irions nous promener dans la rivière. Faudra que je vous apprenne. » Et il voulut envoyer Maurice à la provision d'eau avec le grand bidon. Mais celui-ci, assis dans l'herbe, s'était déchaussé pour examiner son pied droit. « Tiens, qu'est-ce que vous avez donc ?»« C'est le contrefort qui m'a écorché le talon. Mes autres souliers s'en allaient et j'ai eu la bêtise à Reims d'acheter ceci, qui me chaussait bien. J'aurais dû choisir des bateaux. » Jean s'était mis à genoux et avait pris le pied, qu'il retournait avec précaution, comme un pied d'enfant, en hochant la tête. « Vous savez, ce n'est pas drôle, ça. Faites attention. Un soldat qui n'a plus ses pieds, ça n'est bon qu'à être fichu au tas de cailloux. Mon capitaine en Italie disait toujours qu'on gagne les batailles avec ses jambes. » Aussi commanda-t-il à Pache d'aller chercher l'eau. Du reste, la rivière coulait à 50 mètres. Et Loubet, pendant ce temps, ayant allumé le bois au fond du trou qu'il venait de creuser en terre, put tout de suite installer le pot-au-feu, la grande marmite remplie d'eau, dans laquelle il plongea la viande artistement ficelée. Dès lors, ce fut une béatitude à regarder bouillir la soupe. L'escouade entière, libérée des corvées, s'était allongée sur l'herbe, autour du feu, en famille, pleine d'une sollicitude attendrie pour cette viande qui cuisait, tandis que Loubet, gravement, avec sa cuillère, écumait le pot. Ainsi que les enfants et les sauvages, ils n'avaient d'autre instinct que de manger et de dormir dans cette course à l'inconnu, sans lendemain. Mais Maurice venait de trouver dans son sac un journal acheté à Reims, et Chouteau demanda « Y a-t-il des nouvelles des Prussiens ? Faut nous lire ça !» On faisait bon ménage, sous l'autorité grandissante de Jean. Maurice, complaisamment, lut les nouvelles intéressantes, pendant que Pache, la couturière de l'escouade, lui raccommodait sa capote, et que la poule nettoyait son fusil. D'abord, ce fut une grande victoire de Bazaine, qui avait culbuté tout un corps prussien dans les carrières de Jaumont. Et ce récit imaginaire était accompagné de circonstances dramatiques, les hommes et les chevaux s'écrasant parmi les roches, un anéantissement complet, pas même des cadavres entiers à mettre en terre. Ensuite, c'étaient des détails copieux sur le pitoyable état des armées allemandes depuis qu'elles se trouvaient en France. Les soldats, mal nourris, mal équipés, tombés à l'absolu dénuement, mouraient en masse le long des chemins, frappés d'affreuses maladies. Un autre article disait que le roi de Prusse avait la diarrhée et que Bismarck s'était cassé la jambe en sautant par la fenêtre d'une auberge, dans laquelle des zouaves avaient failli le prendre. Bon, tout cela, la poule en riait à se fendre les mâchoires, pendant que Chouteau et les autres, sans émettre l'ombre d'un doute, crânaient à l'idée de ramasser bientôt les Prussiens, comme des moineaux dans un champ après la grêle. Et surtout, on se tordait de la culbute de Bismarck. Oh, les zouaves et les turcos, c'en étaient des braves ceux-là. Toutes sortes de légendes circulaient. L'Allemagne tremblait et se fâchait en disant qu'il était indigne d'une nation civilisée de se faire défendre ainsi par des sauvages. Bien que décimé déjà à Froschwiller, il semblait encore intact et invincible. 6 heures sonnèrent au petit clocher de Dontrien et Loubet cria « À la soupe !» L'escouade, religieusement, fit le rond. Au dernier moment, Loubet avait découvert les légumes chez un paysan voisin. Régal complet, une soupe qui embaumait la carotte et le poireau. Quelque chose de doux à l'estomac, comme du velours. Les cuillères tapaient dur dans les petites gamelles. Puis, Jean, qui distribuait les portions, dut partager le bœuf, ce jour-là, avec la justice la plus stricte, car les yeux s'étaient allumés. Il y aurait eu des grognements si un morceau avait paru plus gros que l'autre. On torcha tout, on s'en mit jusqu'aux yeux. « Ah, nom de Dieu !» déclara Chouteau en se renversant sur le dos. Quand il eut fini, « Ça vaut tout de même mieux qu'un coup de pied au derrière !» Et Maurice était très plein et très heureux, lui aussi, ne songeant plus à son pied dont la cuisson se calmait. Il acceptait maintenant ce compagnonnage brutal, redescendu à une égalité bon enfant devant les besoins physiques de la vie en commun. La nuit également, il dormit du profond sommeil de ses 5 camarades de tente, tous en tas, contents d'avoir chaud, sous l'abondante rosée qui tombait. Il faut dire que, poussée par Loubet, la poule était allée prendre, à une meule voisine, de grandes brassées de paille, dans lesquelles les 6 gaillards ronflèrent comme dans de la plume. Et, sous la nuit claire, d'Auberive à Autrégiville, le long des rives aimables de la Suippe, lente parmi les saules, les feux des 100 000 hommes endormis éclairaient les 5 lieues de plaine, comme une traînée d'étoiles. Au soleil levant, on fit le café, les grains pilés dans une grande gamelle avec la crosse du fusil et jetés dans l'eau bouillante, puis le marc précipité au fond à l'aide d'une goutte d'eau froide. Ce matin-là, le lever de l'astre était d'une magnificence royale au milieu de grandes nuées de pourpre et d'or. Mais Maurice lui-même ne voyait plus ces spectacles des horizons et du ciel. et Jean, seul, en paysan réfléchi, regardait d'un air inquiet l'aube rouge qui annonçait de la pluie. Aussi, avant le départ, comme on venait de distribuer le pain cuit la veille et que l'escouade avait reçu 3 pains longs, il blâma fortement Loubet et Pache de les avoir attachés sur leurs sacs. Les tentes étaient pliées, les sacs ficelés, on ne l'écouta point. 6 heures sonnaient à tous les clochers des villages lorsque l'armée entière s'ébranla, reprenant gaillardement sa marche en avant dans l'espoir matinal de cette journée nouvelle. Le 106e, pour aller rejoindre la route de Reims à Vouziers, coupa presque tout de suite par des chemins de traverse, monta à travers des chaumes pendant plus d'une heure. En bas, vers le nord, on apercevait parmi les arbres Bétigniville, où l'on disait que l'empereur avait couché. Et lorsqu'on fut sur la route de Vouziers, les plaines de la veille recommencèrent, la champagne pouilleuse acheva de dérouler ses champs pauvres d'une désespérante monotonie. Maintenant, c'était l'Arne, un maigre ruisseau qui coulait à gauche, tandis que les terres nues s'étendaient à droite, à l'infini, prolongeant l'horizon de leur ligne plate. On traversa des villages, Saint-Clément, dont l'unique rue serpente aux deux bords de la route. Saint-Pierre, gros bourg de Richard qui avait barricadé leurs portes et leurs fenêtres. La grande halte eut lieu vers 10 heures près d'un autre village, Saint-Étienne, où les soldats eurent la joie de trouver encore du tabac. Le 7e corps s'était divisé en plusieurs colonnes. Le 106e marchait seul, n'ayant derrière lui qu'un bataillon de chasseurs et que l'artillerie de réserve. Et vainement, Maurice se retournait, au coup de déroute, pour revoir l'immense convoi qui l'avait intéressé la veille. Les troupeaux s'en étaient allés, il n'y avait plus que des canons roulant, grandis par ces plaines rases, comme des sauterelles sombres et hautes sur pattes. Mais, après Saint-Étienne, le chemin devint abominable, un chemin qui montait par ondulations lentes, au milieu de vastes champs stériles, dans lesquels ne poussaient que les éternels bois de pin à la verdure noire, si tristes au milieu des terres blanches. On n'avait pas encore traversé une pareille désolation. Mal empierré, détrempé par les dernières pluies, le chemin était un véritable lit de boue, de l'argile grise délayée, où les pieds se collaient comme dans de la poix. La fatigue fut extrême, les hommes n'avançaient plus, épuisés. Et pour comble d'ennui, des averses brusques se mirent à tomber, d'une violence terrible. L'artillerie, embourbée, faillit rester en route. Chouteau, qui portait le riz de l'escouade, hors d'haleine, furieux de la charge dont il était écrasé, jeta le paquet, croyant n'être vu de personne. Loubet l'avait aperçu. « T'as tort, c'est pas à faire ces coups-là, parce qu'ensuite les camarades se brossent le ventre. »« Ah, ouiche !» répondit Chouteau. « Puisqu'on a de tout, on nous en donna d'autres à l'étape. » Et Loubet, qui portait le lard, convaincu par le raisonnement, se débarrassa à son tour. Maurice, lui, souffrait de plus en plus de son pied, dont le talon devait s'être enflammé de nouveau. Il traînait la jambe, si douloureusement que Jean céda à une sollicitude grandissante. « Hein, ça ne va pas? Ça recommence ?» Puis, comme on faisait une courte halte pour laisser souffler les hommes, il lui donna un bon conseil. « Déchaussez-vous, marchez le pied nu, la boue fraîche calmera la brûlure. » En effet, Maurice put de cette façon continuer à suivre sans trop de peine, et un profond sentiment de reconnaissance l'envahit. C'était une véritable chance pour une escouade d'avoir un caporal pareil, ayant servi, sachant les tours du métier. Un paysan mal dégrossi, évidemment, mais tout de même un brave homme. On n'arriva que tard à Contreuve, où l'on devait bivouaquer après avoir traversé la route de Châlon à Vouziers et être descendu, par une côte raide, dans le ravin de Semide. Le pays changeait, c'était déjà les Ardennes. et des vastes coteaux nus, choisis pour le campement du septième corps, dominant le village, on apercevait au loin la vallée de l'Aisne, perdue dans la fumée pâle des averses. À 6 heures, Gaude n'avait pas encore sonné à la distribution. Alors, Jean, pour s'occuper, inquiet d'ailleurs du grand vent qui se levait, voulut en personne planter la tente. Il montra à ses hommes comment il fallait choisir un terrain en pente légère, enfoncer les piquets de biais, creuser une rigole autour de la toile pour l'écoulement des eaux. Maurice, à cause de son pied, se trouvait exempté de toute corvée, et il regardait, surpris de l'adresse intelligente de ce gros garçon, d'allure si lourde. Lui était brisé de fatigue, mais soutenu par l'espoir qui rentrait dans tous les cœurs. On avait rudement marché depuis Reims, 60 kilomètres en 2 étapes. Si l'on continuait de ce train, et toujours droit devant soi, nul doute qu'on ne culbutât la 2e armée allemande pour donner la main à Bazaine, avant que la 3e, celle du prince royal de Prusse, qu'on disait à Vitry-le-François, eût trouvé le temps de remonter sur Verdun. « Ah, ça, est-ce qu'on va nous laisser crever de faim ?» demanda Chouteau, en constatant à cette heure qu'aucune distribution n'était encore faite. Prudemment, Jean avait toujours commandé à Loubet d'allumer du feu, puis de mettre dessus la marmite pleine d'eau. Et comme on n'avait pas de bois, il avait dû fermer les yeux lorsque celui-ci, pour s'en procurer, s'était contenté d'arracher les treillages d'un jardin voisin. Mais quand il parla de faire du riz au lard, il fallut bien lui avouer que le riz et le lard étaient restés dans la boue du chemin de Saint-Étienne. Chouteau mentait effrontément, jurait que le paquet devait s'être détaché de son sac sans qu'il s'en aperçût.
« Vous êtes des cochons !» cria Jean, furieux. « Jetez du manger quand il y a tant de pauvres bougres qui ont le ventre vide !»
C'était comme pour les 3 pains attachés sur le sac, on ne l'avait pas écouté. Les averses venaient de les détremper, à tel point qu'ils étaient fondus, une vraie bouillie, impossible à se mettre sous la dent.
« Nous sommes propres, » répétait-il. « Nous qui avions de tout, nous voilà sans une croûte. Ah, vous êtes de rudes cochons !»
Justement, on sonnait au sergent pour un service d'ordre, et le sergent Sapin, de son air mélancolique, vint avertir les hommes de sa section que, toute distribution étant impossible, ils eussent à se suffire avec leurs vivres de campagne. Le convoi, disait-on, était resté en route à cause du mauvais temps. Quant au troupeau, il devait s'être égaré, à la suite d'ordres contraires. Plus tard, on sut que le 5e et le 12e corps étant remontés ce jour-là du côté de Rethel, où allait s'installer le quartier général, toutes les provisions des villages avaient reflué vers cette ville, ainsi que les populations enfiévrées du désir de voir l'empereur. De sorte que, devant le 7e corps, le pays s'était vidé. Plus de viande, plus de pain, plus même d'habitants. Et, pour comble de misère, un malentendu avait envoyé les approvisionnements de l'intendance sur le chêne populeux. Pendant la campagne entière, ce fut le continuel désespoir des misérables intendants, contre lesquels tous les soldats criaient, et dont la faute n'était souvent que d'être exact à des rendez-vous donnés où les troupes n'arrivaient pas.
« Sale cochon !» répéta Jean hors de lui. « C'est bien fait pour vous, et vous ne méritez pas la peine que je vais avoir à vous déterrer quelque chose, parce que tout de même, mon devoir est de ne pas vous laisser claquer en route. »
Il partit à la découverte, comme tout bon caporal devait le faire, emmenant avec lui Pache, qu'il aimait pour sa douceur, bien qu'il le trouvât trop enfoncé dans les curés. Mais, depuis un instant, Loubet avait avisé, à 200 ou 300 mètres, une petite ferme d'une des dernières habitations de Contreuve, où il lui avait semblé distinguer tout un gros commerce. Il appela Chouteau et la poule en disant « Filons de notre côté, j'ai idée qu'il y a du fourbi là-bas. » Et Maurice fut laissé à la garde de la marmite d'eau qui bouillait, avec l'ordre d'entretenir le feu. Il s'était assis sur sa couverture, le pied déchaussé, pour que la plaie séchât.
La vue du camp l'intéressait, toutes les escouades en l'air, depuis qu'elle n'attendait plus les distributions. Cette vérité se faisait en lui que certaines manquaient toujours de tout, tandis que d'autres vivaient dans une continuelle abondance, selon la prévoyance et l'adresse du caporal et des hommes. Au milieu de l'énorme agitation qui l'entourait, à travers les faisceaux et les tentes, il en remarquait qu'ils n'avaient pas même pu allumer leur feu. D'autres, résignés déjà, couchés pour la nuit. D'autres, au contraire, en train de manger de grand appétit, on ne savait quoi, de bonnes choses. Et ce qui le frappait d'autre part, c'était le bel ordre de l'artillerie de réserve, campé au-dessus de lui sur le coteau. À son coucher, le soleil parut entre deux nuages, embrasa les canons, que les artilleurs avaient déjà lavés de la boue des chemins. Cependant, dans la petite ferme que Loubet et les camarades guignaient, le chef de leur brigade, le général Bourguin des Feuilles, venait de s'installer commodément. Il avait trouvé un lit possible, il était attablé devant une omelette et un poulet rôti, ce qui le rendait d'une humeur charmante. Et comme le colonel de Vineuil s'était trouvé là, pour un détail de service, il l'avait invité à dîner. Tous deux mangeaient donc, servis par un grand diable blond, au service du fermier depuis 3 jours seulement, et qui se disait alsacien, un expatrié emporté dans la débâcle de Frochevillers. Le général parlait librement devant cet homme, commentait la marche de l'armée, puis l'interrogeait sur la route et les distances, oubliant qu'il n'était point des Ardennes. L'ignorance absolue que montraient les questions finit par émouvoir le colonel. Lui avait habité Mézières. Il donna quelques indications précises qui arrachèrent ce cri au général. « C'est idiot tout de même! Comment voulez-vous qu'on se batte dans un pays qu'on ne connaît pas ?» Le colonel eut un vague geste désespéré. Il savait que, dès la déclaration de guerre, on avait distribué à tous les officiers des cartes d'Allemagne, tandis que pas un, certainement, ne possédait une carte de France. Depuis un mois, ce qu'il voyait et ce qu'il entendait l'anéantissait. Il ne lui restait que son courage, dans son autorité de chef un peu faible et borné, qui le faisait aimer plutôt que craindre de son régiment. « On ne peut pas manger tranquille !» cria brusquement le général. « Qu'est-ce qu'ils ont à brailler comme ça? Allez donc voir l'Alsacien !» Mais le fermier parut, exaspéré, gesticulant, sanglotant. On le pillait. Des chasseurs et des zouaves mettaient sa maison à sac. D'abord, il avait eu la faiblesse d'ouvrir boutique, étant le seul du village qui eût des œufs, des pommes de terre, des lapins. Il vendait sans trop voler, empochait l'argent, livrait la marchandise, si bien que les acheteurs, toujours plus nombreux, le débordant, l'étourdissant, avaient fini par le bousculer et par tout prendre, en ne payant plus. Pendant la campagne, si bien des paysans cachèrent tout, refusèrent un verre d'eau, ce fut dans cette peur des poussées lentes et irrésistibles de la marée d'hommes qui les jetait hors de chez eux et emportait la maison. « Eh, mon brave, fichez-moi la paix !» répondit le général contrarié. « Il faudrait en fusiller 12 par jour de ces coquins. Est-ce qu'on peut ?» Et il fit fermer la porte pour ne pas être obligé de sévir, pendant que le colonel expliquait qu'il n'y avait pas eu de distribution et que les hommes avaient faim. Dehors, Loubet venait d'apercevoir un champ de pommes de terre, et il s'y était rué avec la poule, fouillant des deux mains, arrachant, s'emplissant les poches. Mais Chouteau, en train de regarder par-dessus un petit mur, eut un sifflement d'appel qui les fit accourir et s'exclamer. C'était un troupeau d'oies, une 10 d'oies magnifiques, se promenant majestueusement dans une étroite cour. Tout de suite, il y eut conseil, et l'on poussa la poule, on le décida à enjamber la muraille. Le combat fut terrible. L'oie qu'il avait prise faillit lui couper le nez dans la dure cisaille de son bec. Alors il lui empoigna le cou, voulut l'étrangler, tandis qu'elle lui labourait les bras et le ventre de ses fortes pattes. Il dut lui écraser la tête du poing et elle se débattait encore, et il se hâta de filer, poursuivi par le reste du troupeau qui lui déchirait les jambes. Lorsque tous les trois revinrent, cachant la bête dans un sac avec les pommes de terre, ils trouvèrent Jean et Pache qui rentraient, heureux également de leur expédition, chargés de 4 pains frais et d'un fromage, achetés chez une vieille brave femme. « Loubou, nous allons faire du café, » dit le caporal. « Nous avons du fromage et du pain, c'est une vraie noce. » Mais brusquement, il aperçut l'oie étalée à ses pieds, et il ne put s'empêcher de rire. Il la tâta, en connaisseur, saisi d'admiration. « Ah, nom de Dieu, la belle bête! Ça pèse dans les 20 livres !»«
C'est un oiseau que nous avons rencontré, » expliqua Loubet de sa voix de loustique,
« et qui a voulu faire notre connaissance. » Jean, d'un geste, déclara qu'il ne demandait pas à en savoir davantage. Il fallait bien vivre. Et puis, mon Dieu, pourquoi pas ce régal à de pauvres bougres qui avaient perdu le goût de la volaille?
Déjà, Loubet allumait un brasier. Pache et la poule plumaient l'oie, violemment. Chouteau, qui était allé chercher en courant un bout de ficelle chez les artilleurs, revint la pendre entre 2 baïonnettes devant le grand feu. Et Maurice fut chargé de la faire tourner de temps à autre d'une pichenette. En dessous, la graisse tombait dans la gamelle de l'escouade. Ce fut le triomphe du rôtissage à la ficelle. Tout le régiment, attiré par la bonne odeur, vint faire le cercle. Et quel festin ! De l'oie rôtie, des pommes de terre bouillies, du pain, du fromage. Lorsque Jean eut découpé l'oie, l'escouade s'en mit jusqu'aux yeux. Il n'y avait plus de portions, chacun s'en fourrait tant qu'il pouvait en contenir. Même, on emporta un morceau à l'artillerie qui avait donné la ficelle. Or, ce soir-là, les officiers du régiment jeûnaient. Par une erreur de direction, le fourgon du cantinier s'était égaré, à la suite du grand convoi sans doute. Si les soldats souffraient, quand les distributions n'avaient pas lieu, ils finissaient le plus souvent par trouver quelque nourriture. Ils s'entraidaient, les hommes de chaque escouade mettaient en commun leurs ressources. Tandis que l'officier, livré à lui-même, isolé, crevé de faim, sans lutte possible, dès que la cantine faisait défaut. Aussi Chouteau, qui avait entendu le capitaine Baudouin s'emporter contre la disparition du fourgon des vivres, ricana-t-il, enfoncé dans la carcasse de l'oie, en le voyant passer de son air raide et fier. Et il le montrait du coin de l'œil. « Regardez-le donc, son nez remu, il donnerait 100 sous du croupion !» Tous rigolèrent de la fin du capitaine, qui n'avait pas su se faire aimer de ses hommes, trop jeune et trop dur, un pet sec, comme il l'appelait. Un instant, il parut sur le point d'interpeller l'escouade au sujet du scandale qu'elle soulevait avec sa volaille. Mais la crainte de montrer sa faim, sans doute, le fit s'éloigner, la tête haute, comme s'il n'avait rien vu. Quant au lieutenant Rochat, galopé également d'une terrible fringale, il tournait, avec un rire de brave homme, autour de la bienheureuse escouade. Lui, ses hommes l'adoraient. D'abord parce qu'il exécrait le capitaine, ce freluquet sorti de Saint-Cyr, et ensuite parce qu'il avait porté le sac, comme tous. Il n'était pas toujours commode, pourtant, d'une grossièreté parfois à lui ficher des gifles. Jean, qui d'un coup d'œil avait consulté les camarades, se leva, se fit suivre par Rochat derrière la tente. « Dites donc, mon lieutenant, sans vous offenser, « si ça pouvait vous être agréable. » Et il lui passa un quartier de pain et une gamelle, où il y avait une cuisse de l'oie sur 6 grosses pommes de terre. La nuit, de nouveau, on n'eut pas besoin de les bercer. Les 6 digérèrent la bête à point fermé, et ils eurent à remercier le caporal de la façon solide dont il avait planté la tente, car ils ne s'aperçurent même pas d'un violent coup de vent qui souffla vers 2 heures, accompagné d'une rafale de pluie. Des tentes furent emportées, des hommes réveillés en sursaut, trempés, forcés de courir au milieu des ténèbres,
tandis que la leur résistait et qu'ils étaient bien à couvert, sans une goutte d'eau, grâce aux rigoles où ruisselait l'averse. Au jour, Maurice se réveilla, et comme on ne devait se remettre en marche qu'à 8 heures, il eut l'idée de monter sur le coteau, jusqu'au campement de l'artillerie de réserve, pour serrer la main du cousin Honoré. Son pied, reposé par la bonne nuit de sommeil, le faisait moins souffrir. C'était encore pour lui un émerveillement. Le parc, si bien dressé, les 6 pièces d'une batterie correctement en ligne, suivies des caissons, des prolonges, des fourragères, des forges. Plus loin, les chevaux, à la corde, hennissaient, les naseaux tournés vers le soleil levant. Et tout de suite, il trouva la tente d'Honoré, grâce à l'ordre parfait qui assigne à tous les hommes d'une même pièce une file de tente, de sorte que l'aspect seul d'un camp indique le nombre des canons. Quand Maurice arriva, les artilleurs, déjà debout, prenaient le café. Et il y avait une querelle entre le conducteur de devant, Adolphe, et le pointeur, Louis, son compagnon. Depuis 3 ans qu'ils étaient mariés ensemble, selon l'usage qui appareillait un conducteur et un servant, ils faisaient bon ménage, sauf quand on mangeait. Louis, plus instruit, fort intelligent, acceptait la dépendance où tout homme de cheval tient l'homme à pied, dressait la tente, allait à la corvée, soignait la soupe, pendant qu'Adolphe s'occupait de ses 2 chevaux, d'un air d'absolue supériorité. Seulement, le premier, noir et maigre, affligé d'un appétit excessif, se révoltait quand l'autre, très grand avec ses grosses moustaches blondes, voulait se servir en maître. Ce matin-là, la querelle venait de ce que Louis, qui avait fait le café, accusait Adolphe de tout boire. Il fallut les réconcilier. Dès le réveil, chaque matin, Honoré allait voir sa pièce, la faisait, sous ses yeux, essuyée de la rosée de la nuit, comme s'il eût bouchonné une bête aimée, par crainte des rhumes qu'elle pourrait prendre. Et il était là, paternellement, à la regarder luire dans l'air frais de l'aube, lorsqu'il reconnut Maurice. « Tiens, je savais le 106e dans le voisinage. J'ai reçu une lettre de Remilly hier, et je voulais descendre. Allons donc boire le vin blanc. » Pour être seuls tous deux, il l'emmena vers la petite ferme que les soldats avaient pillée la veille, et où le paysan, incorrigible, âpre au gain quand même, venait d'installer une sorte de buvette en mettant en perce un tonneau de vin blanc. Devant la porte, sur une planche, il distribuait sa marchandise à 4 sous le verre, aidé par le garçon qu'il avait engagé depuis 3 jours, le colosse blond, l'Alsacien. Déjà, Honoré trinquait avec Maurice lorsque ses yeux tombèrent sur cet homme. Il le dévisagea un instant, stupéfait. Puis, il eut un juron terrible. « Tonnerre de Dieu, Goliath !» Et il s'élança, il voulut le prendre à la gorge. Mais le paysan, s'imaginant qu'on allait de nouveau mettre sa maison à sac, sauta en arrière, se barricada. Il y eut un moment de confusion. Tous les soldats présents se ruaient, pendant que le maréchal des logis, furieux, s'étranglait à crier « Ouvrez donc ! Ouvrez donc, foutue bête ! C'est un espion ! Je vous dis que c'est un espion !» Maintenant, Maurice n'en doutait plus. Il venait de reconnaître parfaitement l'homme qu'on avait relâché au camp de Mulhouse, faute de preuves. Et cet homme, c'était Goliath, l'ancien garçon de ferme du père Fouchard, à Rémilly. Lorsque le paysan enfin consentit à ouvrir sa porte, on eut beau fouiller partout, l'Alsacien avait disparu. Le colosse blond, à la bonne figure, que le général Bourguin des Feuilles avait inutilement interrogé la veille, et devant lequel, en dînant, il s'était confessé lui-même en toute insouciance. Sans doute, le gaillard avait sauté par une fenêtre de derrière, qu'on trouva ouverte, mais on battit vainement les environs. Lui, si grand, s'était évanoui, ainsi qu'une fumée. Maurice dut emmener à l'écart Honoré, dont le désespoir allait en dire trop long aux camarades, qui n'avaient pas besoin d'entrer dans ces tristes affaires de famille.
Tonnerre de Dieu, je l'aurais étranglé de si bon cœur. Justement, ça m'avait enragé contre lui, cette lettre que j'ai reçue.
Et comme tous deux venaient, à quelques pas de la ferme, de s'asseoir contre une meule, il remit la lettre à son cousin. La commune histoire que cet amour contrarié d'Honoré Fouchard et de Sylvine Morange, elle, une fille brune aux beaux yeux de soumission, avait perdu toute jeune sa mère, une ouvrière séduite qui travaillait dans une usine de Raucourt. Et c'était le docteur Delichamps, son parrain d'occasion, un brave homme toujours prêt à adopter les enfants des malheureuses qui l'accouchaient, qui avait eu l'idée de la placer comme petite servante chez le père Fouchard. Certes, le vieux paysan, devenu boucher par un besoin de lucre, promenant sa viande dans 20 communes des environs, était d'une avarice noire, d'une impitoyable dureté. Mais il surveillerait la petite, elle aurait un sort si elle travaillait. En tout cas, elle serait sauvée de la débauche de l'usine. Et il arriva naturellement que, chez le père Fouchard, le fils de la maison et la petite servante s'aimèrent. Honoré avait eu 16 ans quand Sylvine en avait 12, et comme elle en avait 16, il en eut 20. Il tira au sort, ravi d'amener un bon numéro, résolu à l'épouser. Par une honnêteté rare, qui tenait à la nature réfléchie et calme du garçon, rien ne s'était passé entre eux que de grandes embrassades dans la grange. Mais quand il parla de ce mariage au père, celui-ci, exaspéré, têtu, déclara qu'il faudrait le tuer d'abord. Et il garda la fille, tranquillement, espérant qu'ils se contenteraient ensemble, que ça se passerait. Pendant près de 18 mois encore, les jeunes gens s'adorèrent, se voulurent, sans se toucher. Puis, à la suite d'une scène abominable entre les deux hommes, le fils, ne pouvant rester davantage, s'engagea, fut envoyé en Afrique, pendant que le vieux s'obstinait à garder sa servante, dont il était content. Alors, ce fut l'affreuse chose. Sylvine, qui avait juré d'attendre, se trouva un soir, 15 jours plus tard, dans les bras d'un garçon de ferme engagé depuis quelques mois, ce Goliath Steinberg, le Prussien, comme on le nommait, un grand bon enfant aux petits cheveux blonds, à la large face rose, toujours souriante, qui était le camarade, le confident d'Honoré. Le père Fouchard, sournoisement, avait-il poussé à cette aventure? Sylvine s'était-elle donnée dans une minute d'inconscience, ou avait-elle été à demi violentée, malade de chagrin, affaiblie encore par les larmes de la séparation? Elle ne savait plus elle-même, comme foudroyée, devenue enceinte, acceptant maintenant la nécessité d'un mariage avec Goliath. Lui, d'ailleurs, toujours souriant, ne disait pas non, reculait simplement la formalité jusqu'à la naissance du petit. Puis, brusquement, à la veille des couches, il disparut. On raconta plus tard qu'il était allé servir dans une autre ferme du côté de Beaumont. Il y avait 3 ans de cela, et personne à cette heure ne doutait que ce Goliath, si bon homme, qui faisait si à l'aise des enfants aux filles, était un de ces espions dont l'Allemagne peuplait nos provinces de l'Est. En Afrique, lorsque Honoré avait su cette affaire, il était resté 3 mois à l'hôpital, comme si le grand soleil de là-bas l'avait assommé d'un coup de tison à la nuque. Et jamais il n'avait voulu profiter d'un congé pour revenir au pays, de crainte d'y revoir Sylvine et l'enfant. Tandis que Maurice lisait la lettre, les mains de l'artilleur tremblaient. C'était une lettre de Sylvine, la première, la seule qu'elle lui eût jamais écrite. À quel sentiment avait-elle obéi, cette soumise, cette silencieuse, dont les beaux yeux noirs prenaient parfois une fixité de résolution extraordinaire dans son continuel servage? Elle disait simplement qu'elle le savait à la guerre et que, si elle ne devait pas le revoir, cela lui faisait trop de peine de penser qu'il pouvait mourir en croyant qu'elle ne l'aimait plus. Elle l'aimait toujours. Jamais elle n'avait aimé que lui. Et elle répétait cela pendant
quatre pages, en phrases qui revenaient pareilles, sans chercher d'excuses, sans tâcher même d'expliquer ce qui s'était passé. Et pas un mot de l'enfant, et rien qu'un adieu d'une infinie tendresse. Cette lettre toucha beaucoup Maurice, que son cousin autrefois avait pris pour confident. Il leva les yeux, le vit en larmes, l'embrassa fraternellement. « Mon pauvre Honoré !» Mais déjà le maréchal des logis renfonçait son émotion. Il remit soigneusement la lettre sur sa poitrine, reboutonna sa veste. « Oui, ce sont des choses qui vous retournent. Ah, le bandit, si j'avais pu l'étrangler !» Enfin, on verra. Les clairons sonnaient la levée du camp, et ils durent courir pour regagner chacun sa tente. D'ailleurs, les préparatifs du départ traînèrent. Les troupes, sac au dos, attendirent jusqu'à près de 9 heures. Une incertitude semblait avoir pris les chefs. Ce n'était déjà plus la belle résolution des 2 premiers jours, ces 60 kilomètres que le 7e corps avait franchis en 2 étapes. Et une nouvelle singulière, inquiétante, circulait depuis le matin. La marche vers le nord des 3 autres corps d'armée, le 1er à Juniville, le 5e et le 12e à Rethel, marche illogique que l'on expliquait par des besoins d'approvisionnement. On ne se dirigeait donc plus sur Verdun? Pourquoi cette journée perdue? Le pis était que les Prussiens ne devaient pas être loin, maintenant, car les officiers venaient d'avertir leurs hommes de ne pas s'attarder, tout traînard pouvant être enlevé par les reconnaissances de la cavalerie ennemie. On était au 25 août, et Maurice, plus tard, en se rappelant la disparition de Goliath, demeura convaincu que cet homme était un de ceux qui renseignèrent le grand état-major allemand sur la marche exacte de l'armée de Châlons, et qui décidèrent le changement de front de la 3e armée. Dès le lendemain, le prince royal de Prusse quittait Revigny, l'évolution commençait, cette attaque de flanc, cet enveloppement gigantesque à marche forcée et dans un ordre admirable, au travers de la Champagne et des Ardennes. Pendant que les Français allaient hésiter et osciller sur place, comme frappés de paralysie brusque, les Prussiens faisaient jusqu'à 40 kilomètres par jour dans leur cercle immense de rabatteurs, poussant le troupeau d'hommes qu'ils traquaient vers les forêts de la frontière. Enfin, on partit. Et ce jour-là, en effet, l'armée pivota sur sa gauche. Le 7e corps ne parcourut que les 2 petites lieues qui séparent Contreuve de Vouziers, tandis que le 5e et le 12e corps restaient immobiles à Rethel, et que le 1er s'arrêtait à Attigny. De Contreuve à la vallée de l'Aisne, les plaines recommençaient, se dénudaient encore. La route, en approchant de Vouziers, tournait parmi des terres grises, des mamelons désolés, sans un arbre, sans une maison, d'une mélancolie de désert. Et l'étape, si courte, fut franchie d'un pas de fatigue et d'ennui qui sembla l'allonger terriblement. Dès midi, on fit halte sur la rive gauche de l'Aisne, bivouaquant parmi les terres nues dont les derniers épaulements dominaient la vallée, surveillant de là la route de Montois qui longe la rivière et par laquelle on attendait l'ennemi. Et ce fut, pour Maurice, une véritable stupéfaction lorsqu'il vit arriver, par cette route de Montois, la division Marguerite, toute cette cavalerie de réserve chargée de soutenir le 7e corps et d'éclairer le flanc gauche de l'armée. Le bruit courut qu'elle remontait vers le chêne populeux. Pourquoi dégarnissait-on ainsi l'aile qui seule était menacée? Pourquoi faisait-on passer au centre, où il devait être d'une inutilité absolue, ces 2000 cavaliers qu'on aurait dû lancer en éclaireur à des lieues de distance? Le pis était que, tombant au milieu des mouvements du 7e corps, ils avaient failli en couper les colonnes dans un inextricable embarras d'hommes, de canons et de chevaux. Des chasseurs d'Afrique durent attendre pendant près de 2 heures à la porte de Vouziers.
Un hasard fit alors que Maurice reconnut Prosper, qui avait poussé son cheval au bord d'une mare, et ils purent causer un instant. Le chasseur paraissait étourdi, hébété, ne sachant rien, n'ayant rien vu depuis Reims. Si pourtant il avait vu deux hulans encore, des bougres qui apparaissaient, qui disparaissaient, sans qu'on sût d'où ils sortaient ni où ils rentraient. Déjà, on contait des histoires. Quatre hulans entrant au galop dans une ville, le revolver au poing, la traversant, la conquérant, à 20 kilomètres de leur corps d'armée. Ils étaient partout. Ils précédaient les colonnes d'un bourdonnement d'abeilles, mouvement rideau derrière lequel l'infanterie dissimulait ses mouvements, marchait en toute sécurité comme en temps de paix. Et Maurice eut un grand serrement au cœur, en regardant la route encombrée de chasseurs et de hussards qu'on utilisait si mal. « Allons, au revoir, » dit-il en serrant la main de Prosper. « Peut-être tout de même qu'on a besoin de vous là-haut. » Mais le chasseur paraissait exaspéré du métier qu'on lui faisait faire. Il caressait Zéphyr d'une main désolée et il répondit « Ah oui, on tue les bêtes, on ne fait rien des hommes, c'est dégoûtant. » Le soir, quand Maurice voulut enlever son soulier pour voir son talon qui battait d'une grosse fièvre, il arracha la peau, le sang jaillit, il eut un cri de douleur. Et, comme Jean se trouvait là, il parut pris d'une grande pitié inquiète. « Dites donc, ça devient grave. Vous allez rester sur le flanc. Faut soigner ça. Laissez-moi faire. » Agenouillé, il lava lui-même la plaie, la pansa avec du linge propre qu'il prit dans son sac. Et il avait des gestes maternels, toute une douceur d'homme expérimenté dont les gros doigts savent être délicats à l'occasion. Un attendrissement invincible envahissait Maurice. Ses yeux se troublaient. Le tutoiement monta de son cœur à ses lèvres, dans un besoin immense d'affection, comme s'il retrouvait son frère chez ce paysan exécré autrefois, dédaigné encore la veille. « Tu es un brave homme, toi. Merci, mon vieux. » Et Jean, l'air très heureux, le tutoya aussi, avec son tranquille sourire. « Maintenant, mon petit, j'ai encore du tabac. Veux-tu une cigarette ?